merci de l'avoir suivi. À suivre, le décryptage de Véronique Rigolet consacré à la crise politique en France.
Radio G. www.radio-g.fr
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir. Vous aimez la lecture? Eh ben, ça tombe bien. Demain, on sera avec le Festival du Livre de Saint-Rémy-la-Varenne. C'est la première du nom, du côté du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. On aura notre tonton Albert qui, très certainement, aura des poches sous les yeux. Et si vraiment la lecture, ça vous plaît et qu'en plus, vous aimez pas jardiner, je sais pas. Ce soir, on va être avec Anne Bourreau de La Rosée Sauvage, ou de Wheat, ou de Mauve, ou de Format. Bref, Anne Bourreau, quoi, qui va nous parler de son ouvrage, En finir avec le dicton, je n'ai pas la main verte. Voilà pourquoi je dis si vous aimez lire, mais peut-être que vous n'avez pas la main verte, donc que vous n'aimez moins jardiner. Enfin bref, un guide pratique pour reprendre confiance dans l'entretien de vos plantes d'intérieur, c'est annoncé comme ça. Ça fait suite au masterclass végétal du même nom, qu'on peut notamment retrouver à Wheat. Et justement, Wheat, puisqu'on y est, on va y rester ce vendredi 6 décembre à 18h30. Il y aura une soirée de lancement de cet ouvrage, et elle va nous en dire plus tout au cours de cette émission. Émission qui sera aussi ponctuée d'un deuxième sujet avec toi, Nolwenn. J'ai même envie de dire de Noëlwenn.
Exactement, on parlera de solidarité et de Noël, de cadeaux, tout ça.
Voilà, avec Isabelle qui est venue avec des petits flyers qu'elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va, et vous tous?
Ça va. Qu'est-ce qui se passe autour de 18h36 avec toi?
Je vais vous parler de prosopagnosie. Un okay. Mot à caser au Scrabble.
Ah, toi, tu sais teaser et donner envie aux gens de rester. Hein, voilà. Bon, ce sera Adrien, capte rien, autour de 18h30, bien évidemment. Topette, c'est tous les soirs. Il y aura aussi le synopse en fin de parcours avec Mathis et Emilien, la rediffusion du dernier podcast. Et Topette, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, on va s'ouvrir l'appétit avec un petit podcast de On va où, Sarah, qui nous propose d'aller ce soir au Petit Prix.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Aujourd'hui, je vous fais découvrir un restaurant dont vous avez forcément entendu parler. Petit indice, il a gagné un grand concours culinaire. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Samuel Albert et de son restaurant Les Petits Prés, ouvert Place du Ralliement. J'avais tout entendu sur cet endroit, que les tarifs étaient plutôt élevés et j'avais peur que ce soit un peu surfait du fait de la médiatisation qu'il y avait eu autour de ce dernier. Et là, comme par magie, une signature chez le notaire me donne une vraie raison d'aller découvrir le lieu. En entrant, vous êtes attiré par la grande hauteur sous plafond et la décoration végétale et raffinée. Votre œil se détourne ensuite du décor pour admirer la cuisine ouverte où s'affairent les chefs. C'est au second étage que l'on nous a conduits, dans une salle chaleureuse mais spacieuse où l'on apprécie une véritable ambiance. Par ambiance, j'entends une salle où il y a de l'animation, des gens qui parlent sans se retenir, des rires, le tout sans que ce soit trop bruyant, et j'adore ça. Cela devrait d'ailleurs être le critère numéro 1 ex aequo avec la nourriture. La carte est courte et variée, ce qui laisse un véritable choix aux clients. C'est un vrai bonheur d'avoir des propositions qui changent de tout ce que l'on peut voir. Pas de tartare ni tataki de thon ici. J'ai jeté mon dévolu sur une dorade accompagnée de panis et fenouil. Merci de m'amener un peu de sud-est, c'est si rare. La cuisson du poisson était parfaite. Première fois que je vois du panis dans un restaurant angevin et c'était un régal. Pour info, le panis est une spécialité du sud-est réalisée à base de farine de pois chiche. La texture était lisse et savamment relevée par un peu d'anis et d'olive noire. Le tout pimpé par un condiment d'herbes fraîches qui boostait l'ensemble. Ici, vous prenez les garnitures en supplément. Et j'ai découvert avec passion leurs mini aubergines japonaises rôties au miso. Monsieur, quant à lui, a presque eu l'alarme lorsqu'il a mis en bouche le paleron Angus de Castille. Une viande maturée et persillée qui rappelle le bœuf de Kobe. Fondance extrême pour un morceau de viande de haut vol. Nous avons forcément testé la gaufre de pommes de terre, qui fait la réputation de son chef, et c'était un pur régal. Légère et croustillante, une vraie originalité réussie. Je me suis laissé tenter par un dessert figues et mûres à base de biscuits mirliton, sorte de financier, une ganache montée à la mûre et d'autres chichis. La figue m'a laissé mi-figue mi-raisin. Les saveurs n'étaient pas très relevées et le biscuit un peu trop copieux. Je reste souvent déçue des desserts de restaurant qui restent toujours trop riches et pas assez goûteux. Mais bon, c'était joli, c'était bon, et en revanche, les mignardises du café gourmand étaient très bonnes, délicates et travaillées. Le service a été parfait, prévenant, souriant, disponible et efficace. Tout ça en une heure top chrono pour le déjeuner, je leur tiens mon chapeau. Un endroit idéal, quelle que soit l'occasion. Déjeuner d'affaires, déjeuner familial, dîner en amoureux, dîner entre amis. Pour le tarif, comptez 25 euros le plat. Plat plus garniture, ce qui est totalement justifié vu la qualité des mets et le lieu. Les desserts, eux, sont un peu chers. 12 euros, ça pique. Mais dans l'ensemble, un super moment garanti. Les petits prêts, c'est place du ralliement 7 jours sur 7, de 8h du matin à 1h. Et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Les petits prés, voilà qui nous a ouvert l'appétit. Nolwenn, je te laisse le micro, qu'est-ce qui se passe maintenant? On annonce quoi?
Eh bien maintenant, on va accueillir notre invité, Anne Beau... j'ai plus le nom de famille Beau...
On accueille notre invité qui arrive tout de suite.
L'invité de Topette sur Radio G.
C'est un misérable échec, c'est pas grave, tu auras des occasions bien évidemment de te rattraper. J'ai comme oublié avant de... C'est moi en fait l'échec, j'ai oublié d'annoncer le dimanche 15 décembre 2024 de 10h à 18h le premier salon du livre organisé par l'association du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne qu'on reçoit d'ailleurs, qu'on reçoit demain en plus, la thématique patrimoine et environnement, rencontre d'auteurs, de professionnels, d'assos ayant écrit, publié, photographié ou même dessiné le patrimoine sous le prisme des enjeux environnementaux. De présent, il y aura Inès Leroux qui a autrice d'Algues Vertes, Nicolas Joliveau, Emmanuel Litou et même La Topette. Plus d'infos sur priori-saint-remy.fr. Et maintenant, on relance la virgule car on accueille notre invité Anne Bourreau.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Anne, pour de vrai.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Anne Bourreau, alors multiple casquette à chaque fois que je te présente, c'est comme ça que je le fais. Rosé sauvage principalement, mais aussi wheat presque principalement. Mauvais format, presque principalement aussi. Décidément, ouais. Tu es bien occupée et tu as quand même trouvé le temps de prendre le temps d'écrire un ouvrage, puisque ce soir tu es auteur de ce livre, En finir avec le dicton, je n'ai pas la main verte, qui paradoxalement n'est pas vert mais plutôt bleu et blanc. Un guide pour prendre ou reprendre confiance en soi dans l'entretien de ses plantes d'intérieur. Attention, c'est bien précisément les plantes d'intérieur, même en serre, je pense que ça marche. Ça fait suite à tes masterclass que tu animes déjà sur... de manière éponyme qu'on dit, ou homonyme plutôt. Soirée de lancement dans 2 jours, le 6 décembre, 18h30 à 8. Tiens, dis donc, un endroit que tu connais bien.
Par hasard.
18 rue du Hara, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Anne, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé tout ça? Tu t'ennuyais?
Presque. Non, c'est arrivé très très vite, même si c'est le fruit de... Comme avant, j'avais effectivement une jardinerie à Nantes, puis à Angers, rue Toussaint. C'est vraiment le fruit de toute mon expérience, de l'échange que j'ai eu avec mes clients, à leur donner des conseils, à leur redonner confiance dans l'entretien de leurs plantes, à être en soirée celle à qui on dit « Ah bah oui, t'aurais pas un petit tips pour mes plantes d'intérieur ?» Enfin voilà. Donc ce livre-là, finalement, a mûri depuis au moins 5 ans. Et je l'ai écrit en un mois, là, au mois d'octobre. Je m'ennuyais. L'idée, c'était vraiment de donner en 40 pages, c'est vraiment un petit ouvrage qui, j'espère, se lit facilement, c'est de partir un peu de la base, c'est quoi une plante d'intérieur, d'où elles viennent géographiquement, dans quel milieu elles poussent, et finalement, on est vraiment sur du pratico-pratique.
Alors, on dit que ça fait suite aux masterclass homonymes, coup. Raconte-nous un peu comment se passent ces masterclass. Ce sont des personnes non initiées qui d'un coup se retrouvent les mains dans la terre, ou c'est des personnes qui ont des plantes quand même chez elles?
Alors, effectivement, c'est un peu de tout. Il y a des gens qui veulent en savoir plus, des personnes qui ont eu des échecs et qui sont dépitées et qui s'inscrivent aussi à ce genre de masterclass. On n'a pas les mains dans la terre, contrairement à d'autres ateliers que je peux donner. Là, c'est plutôt moi qui donne des conseils, avec plein de plantes autour de moi pour vraiment expliquer ce que c'est qu'une plante verte, ce que c'est qu'une plante grasse, vraiment être dans des choses très concrètes. Et voilà, c'est une petite session qui dure entre 1h30, 2h.
Donc ça, c'est les masterclass depuis à peu près 5 ans, tu dis, dans différents endroits. Il y a même eu des librairies, je crois.
Oui, alors j'ai fait, pas librairie, médiathèque. À Beaucouzé. J'ai donné une masterclass en octobre dernier, et justement c'est vraiment en préparant tout ce sujet, en l'écrivant, que je me suis rendu compte que j'avais au-delà d'un A3 ou un A4 recto verso, et que j'avais la matière pour publier quelque chose et permettre justement à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent aux plantes, de près ou de loin, de s'en sortir.
Alors, est-ce que les personnes qui nous accompagnent autour de la table du studio ont la main verte? Nolwenn, est-ce que tu as... Voilà, j'ai vu ta tête, hein, clairement, mais dis-le.
Pas tellement, moi, mais ma sœur, beaucoup. Je sais qu'elle a une jungle dans son appartement, donc ça l'intéressera sûrement.
Eh ben voilà, une idée de cadeau, peut-être, justement, idée de cadeau. Isabelle, je te donne la parole. Est-ce que tu as la main verte, toi?
Ça dépend. J'adore les plantes, j'en ai pas mal. Il y en a qui survivent très bien avec moi, d'autres moins bien, donc je suis très intéressée.
Eh ben voilà, il y a déjà deux clientes pour deux lectrices potentielles, Anne.
Ben oui, puis en plus, c'est vrai que, au final, on a tous la main verte. C'est juste comme une rencontre amicale, amoureuse. L'idée, c'est de bien connaître la plante qu'on a achetée ou qu'on nous a offert, et de bien dialoguer avec, parce que finalement, les plantes, c'est du vivant. C'est pas que de la déco, et on peut s'en sortir.
Adrien, est-ce que tu dialogues avec les plantes, toi ?
Moi, j'ai énormément de cactus, parce que justement, je trouve ça assez facile à entretenir. Et il y a moins de décès qu'avec d'autres types de plantes.
Oui, c'est vrai que c'est plus facile, mais...
Oui et non, ça dépend des gens.
J'ai réussi à tuer un cactus.
Ben voilà.
Il est mort déshydraté, le pauvre. Ça a pris du temps, mais il a fini par se déshydrater. Fais-nous parcourir visuellement de manière auditive aussi, le livre. Comment il est construit?
Alors, moi, je l'ai construit avec vraiment un sommaire assez simple. D'abord, on fait connaissance avec le monde du végétal et les différents climats, les différentes zones géographiques où poussent naturellement les plantes d'intérieur, puisqu'elles ne poussent pas en Anjou vraiment concrètement. Et puis après, on est vraiment dans des choses très concrètes. C'est quoi une plante verte? C'est quoi une plante grasse? Et puis on va directement dans un petit chapitre autour du concept qui est un peu à la mode, ou qui a eu une certaine mode, de jungle urbaine. Qu'est-ce que ça revêt d'avoir une jungle urbaine chez soi, d'avoir des plantes pour son bien-être, pour faciliter son moral aussi des fois en les entretenant. Et puis après on vient vraiment à des choses encore plus concrètes, l'entretien, comment on fait. Et donc là j'ai découpé selon les saisons. Printemps, été, automne, hiver, parce qu'à chaque saison, il y a un peu d'entretien selon les natures de ces plantes, que ce soit une plante verte ou une plante grasse, on ne les entretient pas de la même manière. Et puis, rempoter, bouturer, tous les gestes utiles autour de ces plantes quand on commence à être un peu addict au végétal. Et puis, j'ai mis également des petites idées, comment faire une coupelle de germination avec de l'argile autodurcissante. En cas d'absence, comment je gère mes plantes, que je sois absente un week-end, une semaine, 3 semaines, voilà. Comment ça se passe? J'ai toujours les petites fiches que je donnais à mes clients quand j'avais ma boutique, des fiches d'entretien à découper. Donc là, on peut effectivement les photocopier pour vraiment mettre le nom de sa plante. Là, je le montre à toute l'équipe.
À la caméra.
Mais voilà, à la caméra. Et voilà. Et puis pour aller plus loin, parce que j'ai quand même un petit réseau dans le végétal d'amis et de connaissances qui ont écrit eux-mêmes et elles-mêmes des livres. Donc, je donne vraiment des recommandations de lecture d'ouvrages pour aller un peu plus loin. Puisque là, moi, on est vraiment sur les choses pratiques. Mais si on a envie de s'inspirer, d'avoir d'autres, d'aller plus loin, effectivement, dans le végétal, tout est dedans.
Eh ben, on va rester dedans, dans voilà. Ce livre, pour alors en finir avec le dicton « Je n'ai pas la main verte ». On fait juste un petit détour en musique avec « Alien » de Big Wool. Et on revient juste après, tous ensemble. Oui, Big Wool, on l'a découvert lundi. Et ça y est, on est fan ici dans Topette. Alien de Big Wool sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Topette qui a la main verte de plus en plus, en tout cas au cours de cette émission, car on est toujours avec toi, Anne. Oui. Ça va, Anne ?
Ça va.
Impeccable, on s'est partagé le livre pendant la pause musicale en écoutant cette belle musique de Big Wool. Ouais. Main verte, mais livre bleu plutôt. Pourquoi le choix de cette couleur bleue ?
Eh bien, c'est une amie, Virginie Cognac, qui est illustratrice, que j'ai aussi exposée à la Rosée Sauvage quand j'avais ma boutique, rue Toussaint. Et elle m'a offert cette illustration il y a déjà quelques années. Et en cherchant un visuel de couve, quand je faisais ma maquette, tout d'un coup, j'avais ce tableau en face de moi. Je me suis dit, ben, c'est évident que ce sera bleu dans la couleur un peu de prédilection de Virginie, et puis le bleu et le vert, je trouve que ça va bien ensemble aussi. Et voilà, j'aime beaucoup cette couverture.
Pour la petite info à vérifier quand même, mais je crois qu'au Moyen-Âge, bleu et vert, c'était avec un seul mot pour désigner le
tout à fait.
Oh,
c'est
bah
vrai.
Voilà,
eh ben
l'info
oui,
est vérifiée. Super, donc on est
effectivement, j'ai aussi lu ça il y a quelques temps.
Alors, faut préciser quand même, tout à l'heure, tu expliquais comment était organisé le livre, oui. Mais faut bien se rendre compte que il est très accessible visuellement. Il donne envie d'être pris parce que ça ressemble presque plus à une grosse brochure. Ça sent un terme péjoratif.
Ouais, mais complètement. Hein. Bah justement, c'est le but. Je voulais pas aller sur un gros volume. En plus, il est tout doux. C'est un papier peau de pêche qui est tout doux au toucher, si vous voulez toucher en même temps.
Voilà.
Mais voilà. Et puis, il a aussi une vocation à être manipulé. Donc, c'est pour ça aussi avoir un papier qui est pas justement déchirable, qui est plutôt facile à la prise en main, était important.
C'est comme un cahier de brouillon, par exemple, qu'on avait à l'école. J'imagine qu'on peut écrire dessus. Même
à la fin, il y a des petites pages blanches pour écrire si on veut compléter. Voilà.
Et c'est très aéré, il n'y a pas trop d'informations. Il y a vraiment ce qu'il faut. En tout cas, ça a l'air d'être comme ça. Le processus d'écriture, ça n'a pas été trop compliqué. C'est plutôt, tu n'as mis qu'un mois à le faire, donc c'était clair dans ton esprit.
Oui, c'était très clair. Bah, les idées, bah, c'est vrai que l'écriture, je crois qu'à un moment donné, quand on est prêt, ça met des fois beaucoup de temps à germer. Et quand on est prêt, l'écriture, elle se lance assez spontanément, et puis même dans l'organisation du livre, ça a été vraiment assez rapide. Donc c'est en auto-édition. J'ai essayé de faire tout ça un peu par moi-même pour aussi tester, voir l'accueil qu'il va avoir.
Ben voilà, un talent supplémentaire qu'on découvre de Anne, car ça a l'air très bien réussi en tout cas. Je vais le lire quand même pour vérifier l'info, hein, mais en tout cas ça a l'air très accessible.
J'espère que je raconte pas trop de bêtises.
Non, je pense qu'on peut te faire confiance. En finir avec le dicton, je n'ai pas la main verte avec cette soirée de lancement qui a lieu dans deux jours, du coup le vendredi 6 décembre à 18h30 à 8. On va en parler dans quelques instants. Anne, la main verte, on a commencé à l'évoquer, mais c'est quoi? C'est vraiment une expression? Tu disais, on a tous la main verte, mais moi j'ai l'impression d'entendre les chanteurs ou chanteuses qui disent, quand tu chantes très mal, ils disent non, mais tout le monde peut chanter, mais est-ce qu'on peut quand même avoir assez de technique et vraiment s'en sortir?
Bah oui, vraiment, clairement, c'est juste d'abord y aller progressivement, et puis choisir des plantes, et c'est pour ça qu'il faut bien se faire conseiller quand on achète des plantes. Choisir des plantes qui nous parlent, qui sont assez simples. Par exemple, si on a une vie plutôt un peu trépidante, on n'a pas trop de temps à consacrer à ces plantes et qu'on nous achète des fougères, c'est vrai que c'est un peu grossi le trait, mais on va pas forcément y arriver. Si on a tendance à oublier l'arrosage, et pareil, on a des fougères, c'est pareil, ça va pas marcher. Si on adore arroser ses plantes et les bichonner et qu'on a des cactus ou des plantes grasses, c'est pareil, ça va les faire pourrir parce qu'il va y avoir un excès d'arrosage. Donc, c'est aussi bien connaître son rapport au végétal, au monde du vivant, à son rythme de vie aussi. C'est vrai que si on a des longues absences pour des déplacements professionnels ou autres, les plantes vertes, on peut les revoir un peu différemment,
Il y a un proverbe qui dit le meilleur moyen de ne pas aller au bon endroit, c'est de se tromper de bon endroit. Oui. Le meilleur moyen de ne pas avoir la main verte, en fait, c'est de se tromper de plantes avec qui accompagner notre quotidien. Quoi.
Bah oui, et puis même quand on offre des plantes, la personne à qui on offre une plante n'a pas de plante chez elle, c'est un indicateur qu'elle n'aime pas forcément les plantes ou qu'elle n'a pas envie d'en avoir. Donc ça ne sert à rien de forcer aussi en disant je vais lui offrir la première plante. Des fois, ça peut être un stress de recevoir aussi une plante. Donc c'est pour ça que le conseil, et moi ce que je faisais beaucoup dans ma boutique, il y avait une grosse part de conseils, parce que il y a même des fois où je disais peut-être que cette personne-là n'aimera pas avoir cette plante-là parce qu'elle saura pas le faire. Donc c'est vrai que d'où le dicton, j'ai pas la main verte, souvent on le prononce de manière un peu lasse, parce que on est dans un échec autour du vivant, et tuer des plantes c'est jamais très agréable. Donc mais quand on y va petit à petit, on peut s'en sortir et avoir cette fameuse main verte.
Bon, à l'approche de Noël, si j'écoute bien ma propre émission, faut pas offrir ni de chat ni de plantes vertes si on n'est pas sûr de la personne en face.
C'est comme un animal de compagnie, effectivement.
Voilà, ça reste du vivant. Et justement, puisque c'est vivant, si on parle du fait que ce soit des plantes d'intérieur, du coup, quel est leur rôle? Quels sont les avantages au-delà de la décoration, et quels peuvent être les risques aussi? Car je crois, par exemple, qu'il ne faut pas en mettre dans les chambres à coucher.
Non mais ça c'est faux.
Ah bon, voilà.
C'est une légende urbaine. À partir du moment où on a des plantes qui sont en bonne santé, il y a pas de souci d'avoir des plantes dans sa chambre à coucher. Et puis les intérieurs, comme ils sont tous pollués de toute manière, à partir du moment où on aère bien son intérieur, il y a pas de raison de pas mettre de plantes dans sa chambre à coucher. Et puis ça contribue effectivement, comme je disais tout à l'heure, à son environnement. Ça permet aussi de se créer un petit cocon loin de ce monde des fois un peu perturbé, et d'avoir un peu de douceur autour de soi.
L'OMS recommande d'avoir un extérieur donc vert principalement, d'à peu près 19 mètres carrés, au moins pour une personne qui a accès à 19 mètres carrés de verdure. C'est un peu le bon compromis qu'on peut trouver aussi si on a juste un tout petit balcon, et puis d'intérioriser, de verdir son intérieur.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on est en ville, on n'a pas forcément un extérieur, et d'avoir de se créer ce petit visuel vert dans son intérieur, ça c'est bien pour la santé, pour le moral, pour tout.
Ça fait du bien.
Ça rend chaleureux.
Ça fait plaisir. Et justement, on va se faire plaisir à 8, à 18h30, ce vendredi. Qu'est-ce qui va se passer?
Je serai là à vous accueillir, à vous présenter le livre plus en détail, comme j'ai pu le faire là avec vous ici, et puis effectivement d'échanger sur son rapport au végétal et puis démystifier justement que ça peut être très accessible.
Eh bien, merci beaucoup Anne pour cette présentation. Tu restes avec nous, bien évidemment. On va redonner les infos pratiques. Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage ou l'offrir? Peut-être vaut mieux offrir ça plutôt qu'une plante. On a bien compris.
Oui, ça peut être une première étape.
Ça peut être une première bonne étape, effectivement. Ouais. Reste avec nous. On va bientôt justement offrir des cadeaux dans quelques instants avec Nolwenn et son invitée Isabelle. On va parler des boîtes de Noël, les boîtes solidaires. Mais avant tout ça, on va rigoler avec toi, Adrien. Enfin, si, Adrien qui essaye tant bien que mal de capter puis de trouver le premier étage aussi de la radio.
Adrien capte rien dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Merci pour ce lancement incroyable. Moi, effectivement, il y a un truc que je capte pas en ce moment, c'est le modèle économique des opticiens. Je sais pas si vous comprenez, 1 000 euros la première paire, 1 euro la deuxième. Sinon, je vous en prends qu'une et on paye la moitié, on coupe la poire en deux. Parce que moi, j'ai que deux yeux, personnellement. Ouais, enfin, je suis enfin allé me faire faire des lunettes pour pouvoir vous voir en vrai, Pierre Benoît. Et je dois avouer, quel charisme.
Salut.
Mais bon, je suis pas venu ici pour vous parler de l'animateur préféré des Angevins. Moi, je suis venu pour vous parler de mon sujet préféré, moi. Mais aussi d'un scandale qui agite le monde des opticiens et des lunetiers de France. Quand je suis allé chez l'opticien, j'ai remarqué qu'aucun des employés ne portait de lunettes. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu douter de leur légitimité. Parce que pour moi, un opticien qui porte pas de lunettes, c'est un peu comme un chirurgien qui porte pas de gants. Ou un kebabier qui porte des gants. Ou un coiffeur qui porte une coupe mulet. C'est un peu comme un animateur radio sans charisme.
C'est pas moi du coup.
Ou une chronique radio de Charlie sans référence au conflit israélo-palestinien. Ou Interville sans vachette, ou Fort Boyard sans les nains. Ou l'émission du Téléthon sans accès PMR. C'est-à-dire que ça peut fonctionner, mais ça envoie pas des paillettes. Non, un opticien sans lunettes, je pense que c'est un peu comme un breton qui mangerait du beurre doux. Ou pire, un breton qui viendrait pas nous faire chier sur le type de beurre qu'on devrait bouffer ou pas. Je peux aussi faire des chroniques engagées.
Oui, nous louons des bretons.
Bref, j'ai acheté des lunettes, mais ça règle pas mon plus grand problème de vue. Mon plus grand problème, c'est qu'en fait, je suis prosopagnosique, comme Brad Pitt. J'ai plein de points communs avec Brad. Déjà, j'aime bien Jennifer Aniston. Ensuite, je suis prosopagnosique. Bon, pas tant, en fait. Prosopagnosique, je vous le donne pour le Scrabble, c'est quand tu reconnais pas les visages. Moi, je reconnais même pas mon propre visage. Je suis capable de parler à un miroir et de pas être d'accord avec lui. Moi, si un jour je rencontre Brad Pitt, je vais pas le reconnaître. Et lui non plus, d'ailleurs. Mais si je lui dis bonjour, il aura un doute et il me dira do I know him? J'ai un super accent. Mais du coup, j'ai des stratégies pour que ça se voit pas. Par exemple, quand quelqu'un fait coucou dans la rue, je lui fais coucou au cas où ce soit pour moi. Et souvent, c'est pas pour moi. Par exemple, quand quelqu'un me parle, je lui dis hey, je t'avais pas vu. Ça va? Mathilde, ouais, Mathilde, c'est ça. Bon, en général, on finit toujours par replacer la personne sans la vexer. On arrive à recoller les morceaux, à identifier les gens à qui on parle. Le problème, c'est quand un prosopagnosique rencontre un autre prosopagnosique et qu'ils se disent des trucs de prosopagnosique. Du genre, hey, ça va, depuis la dernière fois. Enfin, on fait semblant de chercher nos mots, comme ça, tu fais toujours, on fait semblant de se reconnaître, comme ça il y a un jeu de poker qui s'installe. Moi ça m'est arrivé hier, figurez-vous, dans le train, j'étais assis à côté d'un prosopagnosique, on se connaissait pas, mais on n'était pas sûr. Et du coup on s'est jugé pendant 8 bonnes minutes comme ça. On était là, hey, ça va? Ouais, et toi? C'était cool hein, hier. Et moi la veille j'avais joué dans un comedy club, donc j'en déduis que c'est un humoriste. Et je dis ouais, c'était cool. Je joue ce soir à côté. Est-ce que toi aussi? Il me dit ah non, pas ce soir, j'ai pas le temps. Et là il me sort mais quand tu dis que tu joues, tu veux dire que tu joues aux fléchettes? Et là il avait trop montré son jeu. J'ai vu la détresse dans ses yeux de prosopagnosique. Et sur un ton solennel il m'a dit bonne journée. Et le trajet a été très très long. Mais ça tombait bien parce que j'avais une chronique à écrire. Enfin tout ça pour vous dire, Pierre Benoît, continue à vous habiller de manière discordante, parce que ça me permet de vous reconnaître.
Voilà, donc je vais venir en gilet jaune un petit peu plus maintenant dans l'émission, comme ça tu sauras bien me reconnaître. Mais ça va, tu me regardes à chaque fois, donc je ne suis pas Brad Pitt, d'accord ?
Pourtant, on dirait beaucoup.
Oh, ça c'est le charisme. Merci beaucoup, Adrien. On se retrouve dans deux semaines, si tout se passe bien et si tu arrives à retrouver pour de bon l'étage de la radio. Voilà. C'est peut-être lié justement au prosopagnosique. Merci. Allez, on passe à notre deuxième sujet de la soirée avec toi, Nolwenn.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
On parle Noël et solidarité avec toi, Isabelle Lallemand. Bonsoir.
Bonsoir, Nolwenn. Bonsoir, Pierre Benoît. Bonsoir, les autres.
Tu fais partie de l'association Les Mois de l'année qui a lancé ce 23 novembre dernier la 5e édition de la collecte des boîtes de Noël solidaires en Maine-et-Loire. Alors on va parler de l'association juste après, mais avant tout on va rappeler un petit peu ce que c'est ce concept des boîtes de Noël. Donc ce sont des petites boîtes qui sont préparées avant Noël à destination à des personnes en situation de précarité pour apporter un petit peu de joie. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces boîtes de Noël ?
Alors, ces boîtes de Noël, on vient y mettre 5 petits cadeaux. Déjà, pour la boîte, on va prendre une boîte type boîte à chaussures, hein, parce qu'il faut un format à peu près équivalent pour tout le monde. Donc, on va y mettre 5 petits cadeaux. On va commencer par y mettre quelque chose de chaud, donc un bonnet, une écharpe, une paire de gants, un pull. Ça peut être des choses qu'on a déjà utilisées si elles sont en bon état, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Quelque chose de bon à manger, puisqu'on est quand même dans la période des fêtes. Donc, plutôt des chocolats, des bonbons, une terrine, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qu'on a envie de manger quoi pour les fêtes. Quelque chose qui sent bon. Donc, on dit plutôt produit de beauté, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les hommes, des crèmes pour les barbes, des cires pour les cheveux, des savons qui sentent bon, quoi, un petit peu de fantaisie, voilà. Un divertissement. Alors, comme ces boîtes s'adressent à différents publics, ça peut être aussi bien du jouet pour les enfants qu'un livre, qu'un petit jeu de société de poche, des sous de coude, des choses comme ça pour les adultes. Et puis enfin, c'est souvent ce qui plaît le plus, en tout cas au public adulte, le petit mot doux. Le petit mot doux, c'est la petite attention, parce que voilà, c'est un inconnu qui fait une boîte pour quelqu'un qui connaît pas non plus, et il a pris le temps de faire cette boîte, et le fait de marquer un petit mot en disant voilà, on pense bien à vous, on vous souhaite plein de bonnes choses, ou de faire un petit dessin, un petit poème, et ben souvent c'est ce qui touche le plus les destinataires.
Et ces boîtes, elles sont à destination de quel type de personnes ? C'est à destination de qui ?
Alors, c'est à destination de public de tous les âges, parce que donc on va du bébé à l'adulte, en passant bien sûr par les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Ce sont, comme tu l'as dit, des publics souvent en situation de précarité ou isolés, ou les deux. Il faut savoir que c'est pas nous qui allons les voir directement. Nous, avec l'association, on est chargé d'organiser la collecte. Mais ces boîtes qu'on va venir récupérer, qu'on va venir vérifier, compléter parfois, elles vont être mises à des associations. Et ce sont les associations qui vont les remettre à leurs bénéficiaires.
Et du coup, si on veut faire un don, comment ça se passe ? Qui peut faire un don ? Les particuliers, les entreprises ?
Alors, il y a plusieurs manières de participer. La première manière, celle sur laquelle on communique le plus, effectivement, c'est le fait de faire sa boîte dans sa globalité. Donc, n'importe qui, effectivement, peut le faire, n'importe quel particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il prend sa boîte, il vient mettre ses 5 petits cadeaux dedans. Il va emballer la boîte, alors pas complètement, on va emballer le couvercle séparément du reste de la boîte pour pouvoir qu'elle puisse justement être vérifiée derrière. Et puis, cette boîte, après, on va venir l'identifier, c'est-à-dire mettre une petite étiquette dessus pour dire, voilà, c'est pour un enfant, un garçon, une fille, de tel âge, ou pour un ado, un adulte. Et on va venir la déposer dans un point de collecte. Donc, ça peut être les particuliers, comme je viens de te le dire, mais ça peut être aussi des collectes internes qui sont réalisées dans les entreprises, par des clubs sportifs, dans des écoles. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui participent à la collecte. Et puis, on peut également participer en faisant... On n'a pas le temps forcément de faire une boîte, alors on peut faire un don en argent, parce que l'association, ça va lui servir justement pour acheter des choses qui vont venir compléter les boîtes lorsqu'il en manque.
Et une fois qu'on a fini du coup cette petite boîte, si on en a fait une, comment on fait ? On doit l'apporter quelque part dans un des points de relais
Alors voilà, on a à peu près 80 points, un peu plus même, je crois que 80 points de collecte publics sur tout le département. Donc il faut aller sur notre site, hein, boîte de Noël solidaire, 49, et puis vous trouverez la carte de tous les points de collecte, et vous allez déposer votre boîte dans le point de collecte le plus proche de chez vous, tout simplement.
Et tu parlais tout à l'heure du coup des associations qui redistribuent les boîtes aux personnes bénéficiaires qui en ont besoin. Il y en a 39 au total. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces associations ?
Alors, il y en avait 39 l'année dernière, mais il faut savoir que là, on est presque rendu à 50. Donc, on a une demande qui n'arrête pas de croître. On a des associations comme beaucoup d'antennes des Restos du Cœur, le Secours Populaire pour le Saumurois. On a aussi des associations à destination des femmes comme SOS Femmes, pour les enfants comme les Orphelins Apprentis d'Auteuil, parfois des publics de réfugiés, on a France Horizon, on a plein d'associations. Elles sont, en tout cas toutes celles qui en ont bénéficié l'année dernière, elles sont listées sur notre site et puis on le mettra à jour une fois que la collecte sera terminée avec toutes les nouvelles associations qui sont venues se greffer.
Et donc vous êtes passé de 39 à 50, est-ce qu'il y a un manque de dons sur cette période de Noël qui est particulièrement constaté ?
Alors effectivement, l'année dernière on était contents parce qu'on a fait une super collecte, on a eu un peu plus de 5000 boîtes et on en attendait justement à peu près 5000, sauf que les boîtes sont souvent faites par des femmes, des fois avec leurs enfants, les femmes font beaucoup pour les femmes et pour les enfants et tous les ans on manque de boîtes hommes. Donc c'est vrai que si vous vous posez la question, si vous avez envie de faire une boîte, pardon, mais que vous savez pas pour qui, bah je vous encourage peut-être plus à cibler ce public-là, voire également le public des adolescents garçons. C'est peut-être plus facile de faire une boîte pour une jeune fille que pour un jeune garçon, mais la demande est la même, donc voilà.
Et toute cette collecte, du coup, elle est organisée par l'association Les Mois de l'année dont tu fais partie. C'est quoi le rôle de l'association ? Tu parlais tout à l'heure de vérification, de vérifier les boîtes.
Alors l'association, le rôle de vérification, effectivement, c'est quasiment la dernière étape, on va dire, du processus. Mais avant, c'est déjà de l'organiser, cette collecte. Donc, c'est de contacter justement les associations dès le mois d'octobre, voir quels sont leurs besoins. On leur envoie un petit questionnaire. Voilà, il nous faut tant de boîtes hommes, tant de boîtes femmes, tant de boîtes ados, etc. C'est aussi de trouver les points de collecte ou de, pour ceux qu'on avait déjà les années précédentes, de voir s'ils sont toujours OK pour l'être. C'est d'essayer de rechercher des dons pour venir compléter les boîtes. C'est d'essayer de faire la communication. On a eu une campagne d'affichage qui a débuté le 2, là, qui se terminera le 17, si je dis pas de bêtises, sur les vitrines Angevines, Choletès, Saumurois notamment. Communiquer à travers les radios et autres médias. Et puis, bien évidemment, une fois que la collecte est lancée, on est en contact sans arrêt avec nos points de collecte internes, nos points de collecte publics. Et on vient un petit peu délivrer les points de collecte publics lorsqu'ils commencent à être submergés pour rapatrier les boîtes dans un de nos trois locaux de tri. Parce qu'on en a un sur le Choletais, un sur Angers et un sur le Saumurois. Et toutes ces boîtes donc vont être ouvertes. On va vérifier que le contenu est bien celui qu'il est censé être. Par exemple, si on voit des produits, quelque chose de bon, mais que c'est du fait maison, c'est super, ça part d'une bonne intention, mais on ne peut pas se permettre. Donc ça, on va venir le retirer, on va venir remettre autre chose à la place. Si on voit un vêtement qui est abîmé, c'est un cadeau de Noël, donc on va venir retirer les vêtements abîmés. Et puis parfois, par exemple, pour le produit qui sent bon, il y en a qui l'entendent comme produit d'hygiène, on peut avoir des serviettes hygiéniques, des brosses à dents. Ça fait pas très cadeau de Noël, donc on va pas les jeter, là, bien évidemment, on va les récupérer, on va faire des tas à part, qu'on remettra aux associations qui s'en serviront dans d'autres situations. Mais voilà, nous, on va du coup venir compléter par autre chose. Et puis, la dernière étape après de l'association, ça va être de préparer les commandes des associations. Donc, on sait que telle association a tant de boîtes femmes, tant de boîtes hommes, etc. On va venir leur préparer et les associations vont venir les récupérer au local le plus proche.
Tout ça, ça fait beaucoup de travail. Du coup, j'ai l'impression, vous êtes combien au sein de cette association? Est-ce que vous avez besoin de... Vous êtes à la recherche de bénévoles encore?
Alors moi, je dirais jamais non. Je répondrai jamais non à cette question. On est 7 personnes pour l'équipe organisatrice. On a tous un peu des choses qu'on va plus ou moins gérer. Et puis, on a également des bénévoles qui, justement, eux, vont surtout venir à cette période-là, lorsque la collecte a débuté le 23 novembre, pour nous aider à récupérer les boîtes dans les points de collecte et venir les trier au local et venir préparer les commandes des assos. Donc, sur Angers, je crois qu'il y en a il n'y a pas loin d'une trentaine, il me semble, de bénévoles. Moi, je suis sur Saumurois, j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu plus. J'aimerais bien que la radio passe sur Saumur qui m'entende. Mais bon, voilà. Et je sais aussi que sur Chevelet, on avait une référente l'année dernière qui gérait un petit peu l'organisation de la collecte, qui avait un petit bébé. On la salue, c'est Amandine. Et qui, du coup, cette année, avait plus trop le temps. Mais on cherche justement un référent sur Chevelet pour nous aider.
Merci beaucoup, Isabelle, merci beaucoup. Nolwenn, les infos pratiques et concrètes, si on veut participer, du coup, moi je suis un homme par exemple, si j'ai envie de faire une petite boîte, puisqu'on a bien compris que c'était plutôt à destination des hommes, où est-ce qu'on peut au moins prendre les informations? Je vois qu'il y a des beaux flyers, il y a un site internet, j'imagine aussi.
Alors effectivement, on a un site internet, on a des réseaux sociaux, et sur notre site internet, vous trouverez justement des petites idées de contenu à mettre en fonction de la catégorie de public à laquelle vous destinez votre boîte. Je prends un exemple, tu parlais d'adultes. Si on parle d'adultes, par exemple, pour les divertissements, on a mis des petits instruments de musique, harmonica, kalimba, des petits jeux de poche.
C'est très ludique et très, très bien expliqué. Hein,
ouais,
le fait, hein.
Voilà. Pour les produits de beauté, si c'est une femme, plutôt maquillage. Si c'est un homme, voilà, ça peut être un savon amusant, un parfum, un bel échantillon, enfin, des petits chocolats. Enfin, voilà. Je ne vais pas tout spoiler. Je vous invite à aller voir le site internet et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
Pas encore TikTok, mais ça viendra peut-être un jour.
Peut-être.
Merci beaucoup, Isabelle. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Hein. On prendra un petit peu plus de temps, même encore. Bah, là, dans les timings, c'était bien pour que tu viennes nous reparler de nouveau des boîtes solidaires, des boîtes de Noël solidaires. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Merci beaucoup.
Merci
aussi à Anne qui était là en début d'émission. Alors, par contre, ton micro n'est pas ouvert.
Oui,
allez,
non,
les infos pratiques concernant la soirée. Il faut aller à la soirée pour tout découvrir. Ce sera mieux.
Bah oui, rendez-vous donc dans deux jours, vendredi, à partir de 18h30 à 8, 18 rue du Haras. Et puis voilà, je serais heureuse de vous accueillir. Le livre est également disponible à Maison Flore, rue Bonnet, et puis à la librairie Le Renard qui lit à Chalonne.
Et ben voilà, où trouver ce livre. En finir avec le dicton, je n'ai pas la main verte. Ne dites jamais à Anne que vous avez pas la main verte, car c'est faux. Elle vous dira que c'est faux en tout cas. Et on a bien compris, le mieux c'est de trouver des plantes qui nous correspondent à soi. Merci beaucoup Anne. On se dit
merci,
à bientôt pour d'autres projets, d'autres casquettes encore. Avant de se quitter, Adrien, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe comment?
C'est Adrien Coron, Coron. Et j'ai une petite actu, j'ai ma première télé le 13 décembre sur Culture Box.
Voilà. Oh, waouh! Eh ben voilà, ça c'est une chouette actu. Heureusement que t'as pas mis le mot paragmodiclacloque.
Prosopagnosique.
Exactement, dans ton compte Insta, ça aurait été un peu plus compliqué de te trouver. Merci beaucoup, on se dit à dans deux semaines pour rire encore avec toi. Nous, demain, on est en livre avec le Festival du Livre de Saint-Rémy-la-Varenne. Première édition, c'est le 15 décembre. Grosse actu, puisque le 15 décembre, il y a aussi des anniversaires, par exemple. On se quitte avec le synopsis et on se dit à demain. Prenez soin de vous et topette!
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur, avec Mathis et Emilien.
Bienvenue à vous. Ce lundi 11 novembre à 18h30 au cinéma d'art et d'essai d'Angers des 400 coups, nous avons visionné le dernier long métrage de Boris Lochkine, L'histoire de Souleymane. Avant-propos, je tiens à vous avertir que cette séance n'était pas en avant-première. Nous avons simplement décidé avec Mathis de visionner en particulier ce film qui nous faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. À travers ce podcast, Le Synops, vous allez donc découvrir notre avis sur l'histoire de Souleymane, un thriller palpitant qui nous plonge dans l'univers difficile d'un réfugié devenu livreur Uber Eats, cherchant coûte que coûte à obtenir le droit d'asile pour vivre en France. Au casting, nous retrouvons Abou Sangaré dans le rôle de Souleymane, Alpha Omar Sow dans le rôle de Barry, et enfin Nina Meurice interprétant ici le rôle de l'agent de l'OFPRA. Ces informations, vous pourrez comme d'habitude les retrouver sur le site des 400 coups. Mathis, je te laisse désormais la place pour le synopsis.
Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d'une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, l'Algérie, la Libye ou encore l'Italie pour venir rejoindre la France. À Paris, il tire le diable par la queue. Dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors même que son statut de demandeur d'asile lui interdit de travailler. Cependant, dans deux jours, l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuera sur sa demande de titre de régularisation. Mais son dossier semble fragile pour une France qui, a posteriori, régulariserait uniquement des individus ayant vécu la guerre. Souleymane s'est alors procuré auprès d'un compatriote moyennant finance un récit qui pourrait faire évoluer sa situation si celui-ci est suffisamment convaincant et persuasif. S'entremêlent alors sujets sociaux, histoire d'amour et absurdité administrative.
Pour débuter cet échange, je vais tout d'abord partager mon ressenti. Cette histoire m'a touché, non pas sous le prisme unique de son pathos, c'est-à-dire du purement émotionnel, mais plutôt sur l'accent porté à la situation complexe de Souleymane, qui ici sert de phare mettant en lumière l'extrême précarisation de ses livreurs de nos repas du midi et du soir. On s'immerge dans le quotidien difficile de Souleymane, accentué en fait par le choix d'avoir favorisé ce système de caméra à l'épaule, qui va rendre à ce quotidien un aspect anxiogène, où se forme une course permanente et infinie, tendant le spectateur, qui, c'est un compliment ici que je porte pour Lochkine, n'a pas le temps d'envisager la suite de l'histoire et se laisse en permanence surprendre.
L'histoire de Souleymane, de mon ressenti, semble être un film purement militant, mais ne tombe pas dans le cinéma moralisateur. J'ai trouvé ici qu'il s'agissait surtout de sensibiliser l'opinion publique d'un sujet social et ainsi tendre à ce qu'il devienne sociétal, comme si ce film serait en réalité catalyseur de changement, car finalement qui n'est pas concerné par la cause des sans-papiers ? Ce film invite à la reconnaissance de nos privilèges et des différents enjeux sociaux qui y sont traités. Et pour ce faire, d'un point de vue cinématographique, quoi de mieux que d'utiliser une colorimétrie froide pour renforcer ce réalisme presque documentaire, de représenter la froideur sociale et l'indifférence, ou encore de mettre l'accent sur l'introspection et la solitude de Souleymane.
À l'opposé du film dont on avait fait une critique il y a quelques mois qui s'appelait « Même si tu vas sur la lune » de Laurent Rodriguez, il n'y a absolument pas le même sentiment de grand soutien entre ces communautés de réfugiés. J'y ai même perçu une forme de compétitivité. Je prends ici l'exemple de la scène où Souleymane va tenter d'obtenir de l'aide de la part d'un autre Guinéen pour affiner son récit. Celui-ci, très froidement, va l'envoyer balader. Libre interprétation à chacun, mais sachant la sélection des bénéficiaires du statut de réfugié très limité, elle pousse finalement ces individus à se vendre le plus possible pour sortir du lot. Jusqu'à donc inventer de toutes pièces un scénario poignant qui pourrait légitimer leur venue sur le sol français. On découvrira que ce récit mensonger causera bien du tort à Souleymane, éludant peut-être de trop la sincérité de son parcours.
Il y a également un point à souligner, c'est que ce film s'exprime très clairement sur la traduction même de ce que pourrait être, ou est, l'esclavagisme moderne, notamment par une précarité certaine. On parle d'environ 800 euros de salaire par mois et des conditions de travail dégradées de ces livreurs Uber Eats. Tout cela agrémenté d'une pression constante à la productivité et une absence totale des droits sociaux, car leur statut de livreur renforce leur vulnérabilité parce que responsable de leurs propres frais, vélo, véhicule, carburant, et donc propice au surendettement. De plus, il était ici très important de montrer comment la vie de Souleymane était rythmée par des effets papillons. C'est-à-dire que compte tenu de son aliénation à la société, ce livreur Uber Eats est sans cesse soumis à une tension qui résulte non pas d'événements exceptionnels, mais de petits soucis du quotidien qui prennent ici des allures de quitte ou double décisif. Arrivera-t-il à attraper son bus? Fera-t-il réparer son vélo? Conservera-t-il l'usage du compte Uber qu'il sous-loue au risque de perdre beaucoup?
Pour continuer dans le domaine de cette situation précaire et de cette sous-location, c'est vraiment ce domaine de cette sous-location des comptes Uber Eats qui, moi, m'a choqué puisque je l'ignorais totalement avant visionnage. Beaucoup des jeunes réfugiés, lorsqu'ils débarquent en France, ont l'interdiction de se faire de l'argent et d'avoir un emploi. Ils sont alors, pour certains, contraints de devoir payer pour obtenir le compte Uber Eats à d'autres réfugiés qui ont obtenu le droit d'asile en leur fournissant une partie de leurs gains chaque semaine ou chaque mois. Question de se faire un peu d'argent. Cette sous-location donne alors aux propriétaires le total contrôle sur les rendements que se font ces réfugiés louant leur compte, créant alors de graves problèmes en matière de droit du travail et de traitement. Finalement, on retourne presque à un système féodal, bien que modernisé, les attributs sont similaires. On a un seigneur qui prend à ses paysans son dû chaque semaine sans que celui-ci n'ait son mot à redire.
Et pour terminer, il est essentiel de rappeler que ce film s'inspire non pas de l'acteur qui joue Souleymane, mais c'est Souleymane qui joue bel et bien un rôle s'identifiant à son véritable parcours de vie. Car le jeune Guinéen est encore aujourd'hui sous obligation de quitter le territoire français. Pour se préparer à ce film, l'apprenti acteur a donc fait de la livraison pendant plusieurs semaines pour se familiariser avec les gestes quotidiens tels que le vélo, le téléphone, le sac de livraison, l'application ou encore la manière de se présenter aux clients et aux restaurateurs. Et c'est avec l'aide de la production qu'il a déposé récemment une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture qui a accepté de réexaminer son dossier. Et c'est les 5 dernières minutes du film qui ont permis à Abou Sangar d'utiliser le médium du cinéma pour se permettre d'être écouté. Car oui, devant la jante de l'OFPRA, Abou Sangar, dans le rôle de Souleymane, raconte bel et bien son parcours et sa véritable histoire.
Dans ce long-métrage de Boris Lochkine, Souleymane, finalement, ne deviendrait-il pas le symbole de ces réfugiés qui, à travers un récit à la fois fascinant et trompeur, cherchent à légitimer leur présence en France?
Et c'est la fin de notre podcast et de notre analyse sur le film L'histoire de Souleymane, réalisé par Boris Lochkine. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également, comme d'habitude, pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, Le Synops tout attaché. Jusqu'ici, prenez soin de vous et à bientôt.
Au revoir.
C'est tout.